explique que nous croyons en lui, mais au fond, nous peinons beaucoup à le décrire. Cette difficulté devrait valoir aussi bien pour ce que nous savons et disons du Père et du Fils, car quand Dieu dit à Moïse au buisson ardent qu'il n'a pas de nom et qu'il n'a pas de représentation possible, eh bien, cela est vrai aussi bien du Père et du Fils que du Saint-Esprit. Et ces mots mêmes de Père et de Fils sont en toute rigueur des mots qui nous permettent une analogie, mais qui ne désignent pas de façon absolument parfaite celui que nous adorons, ce Dieu qui est au-delà de toute représentation possible. Bon, mais en tout cas, cela entraîne que parler du Saint-Esprit pour nous est plus délicat que parler du Père et du Fils. Si bien que on risque d'en faire une sorte d'énergie spirituelle et d'oublier qu'il s'agit de quelqu'un, qu'il s'agit d'une personne. On en parlera comme d'un vent ou d'un feu. On le représentera comme une flamme ou un oiseau. Bon, toutes ces réalités ayant en commun d'être fuyante, impalpable, on ne sait ni d'où il vient ni où il va, dit Jésus du Saint-Esprit. Bon. En tout cas, nous savons, et cela doit nous suffire dans la foi, que le Saint-Esprit est une personne, et non pas une chose, et non pas une énergie, et non pas je ne sais quel influx. Il est une personne autant que le Père et le Fils. Et pour ne rien arranger, il se trouve que ce 8e article du Credo est très court, je crois en l'Esprit Saint, et qu'il ne détaille absolument rien. Je crois en l'Esprit Saint, et c'est tout. Eh bien, il me semble que cette sobriété du symbole des apôtres sur le Saint-Esprit s'explique aussi par le fait que le Saint-Esprit s'expérimente bien plus qu'il ne se définit, tout simplement parce qu'il faut être soi-même habité du Saint-Esprit pour parler du Saint-Esprit. Alors bien sûr, c'est vrai aussi du Père et du Fils. Quand nous disons que Dieu est Père, ce n'est pas que nous voyons devant nous Dieu comme Père, mais c'est parce que nous expérimentons sa paternité. Et de même, lorsque nous parlons de Jésus comme Fils de Dieu, nous expérimentons en fait ce qui nous fait penser très fort à la notion de Fils. Mais, je le redis, Père, Fils comme Saint-Esprit sont au-delà de ce que les mots peuvent en dire, et en toute rigueur, nous devrions nous taire pour adorer. En tout cas, cette connaissance de Dieu par expérience se vérifie particulièrement à propos du Saint-Esprit. Le chrétien sait qu'il parlera du Saint-Esprit parce qu'il est porteur du Saint-Esprit, parce qu'il lui est d'abord donné de vivre du Saint-Esprit, et en ce sens, il le perçoit comme vie de sa propre vie, lumière de ce qu'il comprend, hein, comme dit le psaume 36, dans ta lumière, nous voyons la lumière. Autrement dit, c'est sous l'emprise de l'Esprit Saint que nous pourrons percevoir le Saint-Esprit et en parler de façon plus ou moins adéquate. Et c'est pour cela aussi que nous en parlerons comme de celui qui nous éclaire, comme de celui qui nous fait agir, comme de celui qui est pour nous l'Esprit de vérité, l'Esprit de sainteté, l'Esprit de lumière, toutes choses par exemple que nous reprenons dans la liturgie. Alors pour résumer cela, pour montrer que parler du Saint-Esprit, c'est vivre d'abord du Saint-Esprit, je vais prendre un premier tout petit texte emprunté à Fénelon. Fénelon, nous l'avons rencontré souvent dans nos entretiens. Il vivait donc à la fin du XVIIe siècle, au début du XVIIIe, et c'est l'un des derniers grands maîtres spirituels de l'époque classique française. Alors, dans